Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin.
Alors qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui ?
On va tenter aujourd'hui de comprendre pourquoi nos sociétés occidentalisées ont enclenché depuis plusieurs années ce processus de maîtrise et de destruction de la nature. François Terrasson, toujours lui, a creusé la question et a rédigé plusieurs ouvrages sur notre relation à la nature. Il explique notre besoin de maîtrise par la peur de la nature. Au-delà des études sociologiques, il a voulu mettre en évidence cette peur de la nature en organisant des abandons nocturnes. Alors qu'est-ce qu'un abandon nocturne ? Ça consistait en fait à emmener des volontaires, des gentils cobayes, passer une nuit dans la forêt. Donc François les déposait seuls dans la forêt de nuit et ils devaient passer la nuit sur place sans lampe et sans téléphone. Ils étaient récupérés le lendemain matin. Alors les participants réagissaient de différentes manières. Si certains ne vivaient pas d'événements particulièrement impressionnants, d'autres pouvaient être pris d'une peur panique et partir tout droit en courant dans la forêt. Pourtant, ces forêts ne représentent aucun danger réel, même plus celui de se perdre puisqu'elles sont régulièrement sillonnées de chemins. Mais on constate au petit matin que la peur a été largement majoritaire. Des peurs quelquefois reportées sur des aspects particuliers de la nature, les sangliers, les serpents, les araignées, mais aussi et surtout des peurs diffuses qui vous remuent le fond des tripes. L'esprit se questionne et le subconscient s'emballe, imaginant des histoires et des scénarios catastrophes complètement déconnectés de la réalité. Mais au final, tous ressentaient à différentes échelles une appréhension, un malaise ou une peur. Alors voilà d'autres impressions glanées encore une fois dans les rues de Mende sur la peur de la nature que tout le monde, tout un chacun peut avoir.
Non, dans la nature non, après si c'est fait par la nature c'est logiquement normal. Si après les serpents, les araignées, les insectes un peu bizarres, ouais, c'est chelou.
Alors, qui me dégoûte, non, qui me rebute, non, après, qui peut faire peur, une forêt sombre, une forêt sombre toute seule un soir à 23h, ça oui, ça pourrait me faire un peu peur, après, c'est parce qu'on ne connaît pas, et c'est le côté, c'est ce qu'on ne connaît pas qui fait un peu peur, le côté hostile.
Ce qui me dégoûte, c'est la saleté dans la nature.
Non, a priori non. A priori tout de suite là je vois pas.
les animaux, genre les serpents, les souris et tout, les araignées.
Ouais, ça peut m'arriver d'avoir peur dans la nature quand on se promène la nuit et qu'on entend des petits bruits et qu'on voit pas ce que c'est. On a toujours l'imaginaire de se dire que ça va être un énorme truc qui va nous sauter dessus.
Non, la nature, ça devrait pas nous faire peur, nous mettre mal à l'aise. Non, je vois pas.
Moi, les bruits la nuit.
Les crocodiles.
Non, même pas. Non. Non, bah pas. Il en faut. Peur de rien.
Les serpents. J'ai horreur des serpents et je déteste les sapins.
Pourquoi les sapins ?
Bah parce que ça change pas beaucoup de couleurs, du coup les paysages sont plus fades. C'est tellement beau de voir l'automne, l'été et le printemps.
Bah et quand c'est dans la nuit, il y a des animaux qui font peur des fois.
Les loups dans la forêt, ça fait peur.
Ok Corentin, toi il y a quelque chose que t'aimes pas dans la nature ?
Alors moi il y a quand même plein de choses que j'aime pas trop, mais ce qu'on voit le plus souvent quand même, moi c'est surtout les araignées quoi.
Ouais.
J'ai du mal avec ça, ouais.
Ouais, pourquoi ? Est-ce que t'as eu une expérience traumatisante dans ton enfance ou...
pas plus que ça, mais c'est que voilà, c'est toujours au dernier moment qu'on les voit. Moi je trouve ça un peu répugnant quand même, c'est pas très très joli hein, c'est pas très très classe quand même comme bestiole.
Tu as peur de ça depuis ton plus jeune âge, aussi loin que tu peux te souvenir ?
Je pense que c'est ce qui me marquait le plus, ouais, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent. On parlait dans l'émission des peurs qui peuvent être un peu génétiques. Les grands serpents ou crocodiles, etc. c'est pas les soucis, les problèmes qu'on a nous, mode occidental au quotidien. Mmh. Bon, ça c'est pas du tout comparable à une petite araignée, hein. Mais du coup c'est plus vers ça que ouais je me focalise ouais carrément.
D'accord.
Après, si je me retrouve au milieu de la savane ou je sais pas quoi, ouais, ça sera. Je vais les oublier, les araignées.
Elles sont plus grosses là-bas.
Voilà, c'est surtout ça, ouais.
Ok, merci. Alors, essayons de comprendre d'où viennent ces peurs, des bruits, peur du noir, des animaux. Pour tenter de comprendre, il faut remonter le temps jusqu'au moment et à l'endroit où les humains sont apparus sur la planète.
Il y a 7 millions d'années, en Afrique.
En Afrique, les premiers hommes n'avaient bien sûr pas la même place dans leur environnement. Étant plutôt des proies, le premier homme devait préférer les zones ouvertes, savanes ou prairies dans lesquelles il pouvait voir loin autour de lui et surveiller ses prédateurs.
Oui, mais la peur de la nature et de certains animaux est bien réelle et vitale pour l'homme.
Voilà, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la nuit des serpents, des lions ou des crocodiles? Ben parce que l'homme avait de bonnes raisons d'éviter de s'en approcher. Il existait un danger réel de blessure, voire de mort, si l'on n'était pas assez prudent. La peur réflexe entraîne la fuite ou la défense, et c'est indispensable à la survie. Cette peur utile s'est transmise de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Une peur existante depuis des millions d'années et presque inscrite dans notre patrimoine génétique. Pour contrer cette peur, l'homme a eu besoin d'affirmer sa supériorité, de maîtriser des espaces hostiles, comme les marécages ou les forêts, et de chasser des animaux jugés indésirables. Ça a donné le défrichage systématique, le drainage des zones humides, la destruction des serpents, blaireaux, renards, rapaces, loups, prédateurs en général.
Oui, mais nous avons évolué. Est-ce que ces peurs sont toujours utiles?
Ben, si des peurs ont été ou sont encore dans certains cas utiles à l'homme, comme les crocodiles par exemple, beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui totalement incohérentes et sont alimentées par certaines croyances. Prenons un exemple.
Un exemple, le serpent?
Le serpent. Le serpent, c'est vraiment difficile à défendre. Les phobies violentes inspirées par les serpents, est-ce qu'elles sont l'écho à l'instinct de survie comme nous l'avons vu précédemment? Eh ben, certainement, puisque nos ancêtres vivaient probablement les pieds nus dans des savanes et des forêts tropicales où grouillaient de puissants cobras, vipères et autres reptiles dangereux, en Afrique notamment. L'aversion profonde vis-à-vis de ces serpents devait entraîner la fuite ou la fureur d'oxyre l'animal, donc ces comportements auraient été favorisés par la sélection naturelle. Mais si les dangers associés aux serpents devaient automatiquement générer l'aversion, il devrait y avoir une proportion entre les risques dus aux morsures et le degré de peur. Tout d'abord, les morsures restent relativement rares, y compris dans les pays où les reptiles abondent. À chaque fois que la fuite reste une option, le serpent cherchera à disparaître sans combattre. Malgré tout, les accidents parfois dramatiques se produisent, généralement parce que l'homme a provoqué la bataille. En Australie, une étude a démontré que les attaques par les grands serpents venimeux, les brown snakes, sont en fait presque toujours des ripostes. Le serpent cherche à fuir, mais acculé et frappé par le bâton, il essaye de mordre. En toute logique, du coup, la sélection naturelle aurait dû défavoriser un comportement agressif vis-à-vis des serpents, puisqu'ils augmentent considérablement le risque de morsure.
Oui, ça augmente le risque de morsure, mais dans tout ça, il y a aussi la malchance.
Il reste la malchance. Au cours des tâches courantes comme le ramassage du bois ou la cueillette, un serpent piétiné et surpris peut mordre rapidement. De nos jours, la gravité des empoisonnements est directement liée à la proximité d'hôpitaux. Mais il faut garder à l'esprit que, toute proportion gardée, ces drames sont loin derrière les autres causes de mortalité qui affectent l'homme. Notamment celles qui impliquent des animaux domestiques. Les chiens, meilleurs amis de l'homme, sont bien plus redoutables qu'avec leurs mâchoires puissantes et leur comportement imprévisible, statistiques et fesses arrachées de facteurs à l'appui. Il faut mieux laisser un enfant jouer dans un jardin où se trouvent des serpents plutôt qu'un seul molosse, au niveau des statistiques.
Mais il a toujours un aspect négatif, il est jamais vénéré ou...
Le serpent, dans de nombreuses cultures, est un symbole positif, même dans les contrées abritant des serpents extrêmement venimeux. Les aborigènes considèrent le serpent arc-en-ciel comme une divinité majeure qui apporte la vie. Ananda en Inde, Ixelles au Mexique, Minya au Sahara, Krekops en Grèce, New Goa en Chine sont autant de divinités primordiales, puissantes et bénéfiques. La liste des bons serpents est vraiment très longue. Même dans la Genèse, le serpent n'est pas un personnage sournois, mais il est avisé et progressiste et apporte la connaissance à Adam et Ève.
Mais s'il apporte la connaissance, alors pourquoi cette mauvaise réputation? Pourquoi une telle aversion contre cet animal?
Eh bien, on peut l'expliquer lorsque le christianisme a triomphé des païens. Nombre d'espèces considérées comme des divinités ont été ridiculisées et diabolisées pendant des siècles. C'est le cas des serpents, de la chouette d'Athéna ou de l'ours. Ce problème des superstitions mêlées à des sentiments de malaise et d'inconfort qui déclenchent des réflexes destructeurs dépasse très largement le cas des serpents, mais concerne de manière générale ce que l'on connaît peu ou pas. C'est un lieu commun, la méconnaissance génère la peur. Ignorance et crainte font bon ménage. Ces attitudes se renforcent mutuellement à travers le développement de rumeurs et de préjugés. Alors pour combattre nos peurs irrationnelles de la nature, de ces animaux, rien ne vaut la pratique et la connaissance. La nature ne se résume pas aux petits volatiles et aux pâquerettes, il y a aussi des choses plus dérangeantes qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Mais le monde des marécages, de la nuit et des broussailles ne nous est pas hostile. Apprenons à se connaître et à vivre ensemble, car nous, humains, avons tout à y gagner.
Merci beaucoup Muriel, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.